Bienvenue au pays des mythes et des légendes.
Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Ulysse et Nestor viennent de partir en ambassade à Troie. Pour éviter que les Grecs partent au combat sans Achille, ils proposent une trêve. Ménélas et Paris, le mari et l'amant d'Hélène, doivent s'affronter dans un combat d'homme à homme. Mais voilà que Paris échappe au combat grâce à l'intervention d'Aphrodite. Et la guerre reprend. Le lendemain soir, Ulysse retourne au campement d'Achille. Sa joie est grande de découvrir le visage rayonnant des deux amoureux. Ils sortent ensemble de leur tente pour venir à sa rencontre. « Ulysse, mon ami, comment puis-je te remercier de m'avoir rendu ma bien-aimée ?» lui dit Achille. Briséis a fidèlement raconté le rôle d'Ulysse dans sa libération. Une chance existe donc. Ulysse s'en saisit aussitôt. « Tu le peux facilement, grand Achille. Nous avons besoin de toi au combat. Nos hommes ne gagneront pas sans toi. » À ces mots, le sourire heureux d'Achille s'est figé. « Tu ne peux pas me demander ça. J'ai juré de ne plus jamais servir sous les ordres de cette fripouille d'Agamemnon, et je tiendrai ma promesse. » Ulysse insiste. « Écoute, ce matin, de nouvelles troupes sont venues rejoindre le camp des Troyens, celles de Rhésos. Elles sont venues avec leurs fameux chevaux. Tu en as déjà entendu parler ?» Achille fait signe que oui. Ulysse continue. « Donc, tu sais que les chevaux de Rhésos sont blancs, blancs comme neige et rapides comme le vent. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le devin Calchas a prédit que si les chevaux de Rhésos boivent l'eau du fleuve Scamandre, alors nous perdrons la guerre. Il faut agir vite. Viens nous aider avant qu'il ne soit trop tard, je t'en conjure. » Le Scamandre coule exactement au milieu des lignes grecques et des lignes troyennes. Les chevaux vont forcément s'y désaltérer à l'aube. Mais Achille s'obstine dans son refus. « Ce combat n'est pas le mien. Pour moi, la guerre de Troie n'a pas eu lieu. » Il serre affectueusement Ulysse dans ses bras. « Je pars cette nuit, et aucune de tes belles paroles ne pourront me faire changer d'avis. Je suis désolé. » Ulysse tente un dernier argument, presque désespéré. « Achille, je t'ai rendu ta femme. Aide-moi à retrouver aussi la mienne. » Mais Achille ne l'entend même pas. Il a déjà fait demi-tour. Il est rentré sous sa tente. Briséis esquisse une grimace pour signifier son impuissance à faire changer d'avis son homme. Puis elle saisit les mains d'Ulysse, y dépose furtivement un baiser et elle suit Achille. Ulysse reste seul face au soleil qui se noie dans la mer. Il rêve nuit et jour, au moment où il pourra prendre Pénélope dans ses bras. Il est envahi par une vague de désespoir. Cette maudite guerre ne finira donc jamais. Il ne reverra jamais son île, ni sa femme, ni son fils. Soudain, un héron surgit sur sa droite. L'oiseau magnifique décrit un vol parfait. C'est un présage envoyé par Athéna. Un bon présage, murmure une voix derrière Ulysse. Il sait que c'est Oumariaka. Pourquoi les dieux se jouent-ils ainsi des hommes? Tantôt ils les transforment en pantins, juste bons à servir leurs intérêts dans leurs querelles, tantôt ils les protègent, les accompagnent, les aiment même. Quel rôle joue donc Athéna, sa déesse protectrice? N'est-ce pas de sa faute à elle si la trêve a été rompue? Ulysse ne se sent pas d'humeur à accueillir les présages des dieux, fussent-ils de bons présages? « Fais confiance, dit la voix d'Oumariaka. Fais confiance, tu n'as rien à perdre à t'en remettre aux dieux. » Ulysse soupire. Le héron majestueux repasse sous ses yeux, si près comme indifférent à sa présence. Peu à peu, quelque chose se dénoue en lui. Il s'allonge sur le sable et contemple les étoiles qui s'allument une à une. C'est alors qu'une idée folle le traverse, une idée que seul le désespoir peut engendrer. Lui, Ulysse, va tenter de s'infiltrer dans le camp ennemi. Il dérobera les chevaux blancs de Rhésos avant que le jour ne se lève et qu'ils ne boivent l'eau du Scamandre. Quelques heures plus tard, Ulysse rampe en direction des lignes troyennes. C'est une nuit sans lune, une de ces nuits d'un noir si profond que le moindre frisson d'une branche nous fait tressaillir. Ulysse reste tapi dans l'ombre. À ses côtés, Palamède retient son souffle. Ulysse aurait préféré partir seul dans cette folle expédition nocturne, mais Palamède, ayant appris sa tentative, s'est imposé pour l'accompagner. Ulysse n'a pas eu le choix. Sans doute, Palamède redoute-t-il qu'une réussite couvre son ennemi de gloire. Ils sont en tout cas embarqués ensemble dans cette entreprise déraisonnable pour le meilleur et pour le pire. Les soldats grecs, aux aguets, épient l'obscurité. Ils ont étouffé les feux. Quelle folie de se glisser ainsi dans les lignes troyennes pendant la nuit, chuchote l'un. Non, et quel courage, rectifie un autre. Si par miracle Athéna les protège, ils s'en sortiront, mais reviendront les mains vides, murmure un troisième. Ils ne reviendront jamais vivants, conclut le premier. Alors qu'Ulysse et Palamède rampent dans l'obscurité, ils perçoivent un frôlement. Quelque chose bouge dans le noir, et ce quelque chose avance droit sur eux. Une ombre se faufile en direction des lignes grecques. En tentant de percer la nuit, ils croient apercevoir un dos velu et deux oreilles pointues. C'est un loup ! L'animal n'a manifestement pas remarqué leur présence. Ils retiennent leur souffle. Dès qu'il les a dépassés, sans réfléchir, Ulysse et Palamède bondissent sur lui par derrière et l'empoignent. Quelle n'est pas leur surprise d'entendre le loup se mettre à parler, à les supplier de lui laisser la vie sauve. Ils viennent en réalité de capturer un jeune Troyen vêtu d'une peau de loup. Celui-ci rampait en direction des lignes grecques. Voilà comment ils se sont trouvés presque nez à nez. « Qui es-tu ? » gronde Palamède. « Je m'appelle Dolon, » bredouille le captif terrorisé. « Et que viens-tu faire par ici ? » poursuit Palamède. « Ne me tuez pas, » supplie Dolon. « Oui, j'ai accepté d'aller espionner les Grecs au péril de ma vie, mais la récompense promise me tente trop. Si j'accomplis ma mission, on m'a dit que je recevrai en cadeau le char d'Achille. » « Comme il est jeune, » songe Ulysse, à peine plus âgé que mon fils, peut-être. Sa voix se fait plus douce que celle de Palamède lorsqu'il demande « Tu aimes donc les chevaux ?»« Oh oui !» répond Dolon. « Alors, tu es allé voir ceux de Rhésos aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Dolon, d'une voix encore tremblante de peur, répond oh, « Ils sont extraordinaires. Une robe plus aveuglante que la neige et une course plus rapide qu'une étoile filante. » Télémaque aussi doit aimer les chevaux. Ulysse propose un marché à Dolon. « Si tu nous indiques où se trouvent exactement ces chevaux dans votre camp et comment sont disposées les sentinelles qui les gardent, tu auras la vie sauve. » Alors le jeune Dolon se met à parler, à parler. Il livre tout, il raconte dans le détail. Il a peur. Il trahit les siens pour rester en vie. Toutes ces informations sont précieuses pour la réussite de l'opération tentée par les Grecs. Satisfait, Ulysse remercie Dolon. Il desserre un peu son étreinte et se tourne pour attraper de quoi le ligoter afin qu'il ne s'échappe pas pendant leur expédition. Mais à cet instant, Palamède dégaine son poignard et l'enfonce dans le corps de Dolon. Celui-ci s'écroule sans un cri. Ulysse se retourne, fou de colère. « Mais pourquoi as-tu fait ça, Palamède ? Je lui avais promis la vie sauve s'il nous livrait les informations dont nous avions besoin. » Palamède ne répond même pas. Il récupère la peau de loup de Dolon, la jette sur ses épaules et range son couteau. Ce costume te va bien. Tu es pire qu'un loup, Palamède, siffle Ulysse entre ses dents. Mais il est obligé de se contenir. Une dispute bruyante les aurait immanquablement fait repérer. C'est une nuit d'encre et de sang. Ulysse a un goût amer dans la bouche. Les deux hommes reprennent leur progression. Bientôt, ils arrivent à l'entrée du campement de Rhésos. La silhouette d'un soldat qui sert de vigie se détache à la lueur de la torche. Seul le cri-cri des cigales se fait entendre. La sentinelle, qui ne se doute de rien, n'a pas le temps de souffler avant d'être assommée. Les deux Grecs se faufilent alors rapidement jusqu'au lieu où les chevaux blancs sont attachés pour la nuit. Ulysse, qui s'est réjoui jusqu'à présent de l'absence de l'une, la regrette. C'est à tâtons qu'il dénoue la corde qui retient les bêtes. Il flatte doucement l'encolure du cheval de tête, puis il enveloppe chaque sabot d'un morceau d'étoffe qu'il a pensé à emmener pour éviter que le bruit ne donne l'alerte. Palamède ne fait rien, et Ulysse s'en irrite en silence. Tout en couvrant le plus rapidement possible les sabots des autres chevaux, Ulysse médite. « J'ai échoué une première fois là où je ne devais échouer sous aucun prétexte. Je n'ai pas réussi à être assez convaincant pour qu'Achille reprenne le combat. J'ai échoué une deuxième fois puisque je n'ai pas pu empêcher ce monstre de Palamède de trahir ma parole. C'est lui qui a assassiné Dolon, mais le sang du jeune Troyen m'éclabousse et me couvre de honte. Alors je ne dois pas échouer une troisième fois. Il faut que j'enlève ses chevaux. Reste que si je réussis, cet hypocrite de Palamède va s'en attribuer toute la gloire. » Sa respiration saccadée, les battements précipités de son cœur lui donnent l'impression de résonner bruyamment dans le silence de la nuit. Le sang lui bat aux tempes. Va-t-il encore une fois rater son but? Même le vent est tombé. Pas un bruit, pas une lueur dans cette nuit d'angoisse. Quelques hommes, lassés des pieds l'ombre, s'assoupissent doucement. D'autres chuchotent encore pour se donner du courage. C'est l'heure des regrets et des plaintes. La caresse d'une branche de laurier sur la joue, le parfum d'un hibiscus en fleurs, le goût doucâtre d'une figue à point, celui, plus amer, d'une orange cueillie à même l'arbre, l'ombre fraîche d'un mûrier. Chacun convoque un souvenir intérieur qui l'aide à avoir moins peur. Pour les uns, les cornes fièrement dressées d'une chevrette au pelage ébouriffé et des touffes d'herbes odorantes giflées par le vent. Pour les autres, des poissons multicolores qui jouent dans les filets et des galets aux teintes irisées qui roulent dans la paume. Pour tous, hommes de la montagne ou de la mer, le goût de l'oignon et du pain frottés à l'huile d'olive. Les mots taisent celles qui manquent si fort. La femme, la mère, la fille. Et toujours cette nuit d'encre à l'odeur de sang qui les enveloppe de son froid linceul. Alors on reparle de la guerre, l'obsédante guerre qui les possède tous de la même manière. La bravoure de leur chef, le grand Hector, est sans égale, murmure un soldat. Seul Achille parmi nous est aussi valeureux que lui, mais il nous a abandonnés, soupire un autre. Tous approuvent. Oui, Hector est extraordinaire. Si personne ne l'arrête, nous mourrons tous sous les coups de son épée, dit quelqu'un d'autre d'une voix rauque. Soudain, la mort rôde à nouveau. La mort s'infiltre sous leurs habits. La mort leur colle à la peau. Les yeux écarquillés, ils guettent le noir, comme pour conjurer cette mort annoncée, la leur. Et cette nuit n'en finit pas. Les hommes sont épuisés par l'attente, par l'angoisse, mais personne ne songe à dormir. Soudain, on devine comme un léger bruissement, oh, pas plus fort que le zézément d'un insecte aux heures chaudes de l'été. Et puis ça enfle, le moucheron devient mouche, la mouche se transforme en guêpe, et bientôt c'est un essaim de frelons qui bourdonne au loin. Les hommes se sont levés. Un immense espoir gonfle leur poitrine. Ce sont eux qui reviennent, n'est-ce pas ? Questionne une jeune voix vibrante. Et si c'était plutôt les Troyens qui lancent une attaque de nuit ? Crie une autre voix. Alors la panique gagne les rangs. Chacun se jette sur ses armes, se rechausse maladroitement. Les gestes sont précipités, les respirations oppressées. Cette fois, c'est un bruit de martèlement qui leur parvient. Un bruit sourd et violent, celui d'une chevauchée. Et soudain, les voilà. Ce n'est pas l'ennemi qui surgit. Cet ennemi armé jusqu'aux dents, qui les fait frémir de peur, non. Mais Ulysse et Palamède, chevauchant les plus beaux chevaux du monde. Palamède a une peau de loup jetée sur ses épaules, et Ulysse pousse de longs cris sauvages. L'aube n'est pas loin. Ulysse et Palamède sont fêtés comme des rois. Ça faisait bien longtemps que le rire et la vie ne s'étaient pas invités ainsi dans les rangs des Grecs. On fait couler le vin des tonneaux, on réactive les feux, on met quelques moutons à la broche. Ulysse circule des uns aux autres, acceptant les félicitations sans grande joie. La fierté d'avoir réussi sa mission est largement gâchée par les vantardises de Palamède. Comme prévu, celui-ci se complaît du récit de leur exploit. Il s'attribue une grande partie des mérites. Les dents serrées, Ulysse regarde la peau de loup jetée sur les épaules de Palamède, qui parade. C'est celle qu'il a arrachée au cadavre de Dolon. Malgré l'ambiance festive, Ulysse est écœuré. Il préfère s'éloigner de son campement pour ne plus assister à cette mascarade. Les lueurs de l'aube vont poindre, mais la nuit est toujours là, tapis. Sur la plage, il aperçoit deux silhouettes qui marchent devant lui. Elles ne l'entendent pas approcher. « Tu sais comme je tiens à toi, mon ami, » dit l'une. « Tu m'es plus cher que mes yeux, plus cher que mon cœur, plus cher que ma vie. Toi aussi, mon frère, tu comptes plus que quiconque pour moi. » C'est l'heure des murmures et des confidences. Ulysse est gêné, il se sent indiscret. Mais il ne peut s'empêcher de continuer à tendre l'oreille, car il a reconnu les voix de ces deux hommes. Ce sont celles du grand Achille et de Patrocle, son fidèle ami. « Si j'accepte ta demande, » dit Achille, « tu partiras au combat avec mon armure, et les ennemis te prendront pour moi. Tu seras une cible toute trouvée. » La voix de Patrocle se fait insistante. « Achille, mon frère, laisse-moi y aller, ainsi revêtu de ta gloire, s'il te plaît. Il n'est pas dit que tes hommes ne prendront pas part au combat. « Mais je ne veux pas te perdre, » murmure Achille. Sa voix faiblit. « Tu ne me perdras pas, mon ami, mon âme, » répond Patrocle. Achille pose son bras sur l'épaule de Patrocle et il continue ainsi à marcher le long du rivage. Ulysse en a assez entendu. Il cesse de les suivre et s'assied sur le sable. Les échos des rires, de la musique et de la fête lui parviennent par éclats, comme des étincelles de lumière dans un ciel noir, juste avant l'orage.